Bonjour, drôle de petite bête. Il est là, dressé sur ses deux pattes, parfois intelligent, souvent plutôt flemmard, capable d'exploits intellectuels, exploits physiques, des plus grandes lâchetés. Il a un quotidien qui peut paraître banal, parfois merveilleux. Et puis, peut-être que sa vie pourrait être encore plus dense. De qui s'agit-il ? Eh bien, tout simplement de l'homme. Et oui, nous, les bipèdes, nous avons une personnalité. On croit la connaître, mais si l'on pioche, et c'est ce que nous essayons de faire le plus souvent le dimanche matin, on s'aperçoit qu'on pourrait peut-être aller plus loin dans les sensations d'existence. Eh bien, c'est ce qu'avait pensé un personnage sortant véritablement de l'ordinaire qui s'appelle Frédéric Meyers, M-Y-E-R-S, et qui, au début du siècle, s'est intéressé à la personnalité humaine. Et les écrits qui ont été les siens réapparaissent aux éditions Exergue, La personnalité humaine, Frédéric Meyers, L'essentiel de la métapsychique. Alors, pour en parler avec nous, nous avons ce matin Johar Siamet. Vous connaissez Johar, nous a déjà fait l'amitié d'être présente dans ce studio, docteur en psychologie, psychanalyste. Elle s'intéresse aussi à l'hypnose ericksonienne, fondatrice de l'Institut des champs limites de la psyché. Et puis, dans les nombreux ouvrages que vous avez publiés, il y a L'effet derrière le miroir, entre autres, il y a... Allez-y.
Faire le miroir, je ne sais plus.
J'ai eu trop de livres, allez.
Et puis, parapsychologie, psychanalyse, expérience autour de miroir.
Voilà, et vous allez aujourd'hui, avec quelques complices, tenter de relancer l'Institut métapsychique qui, au début du siècle, eh bien, comme Meyers, tentait de comprendre tous les phénomènes dits paranormaux. Et c'est dans ce cadre que vous êtes intéressé aux travaux qu'il a menés. Nous sommes d'accord. Alors, Qui est Meyers ?
Alors, Meyers, c'était un homme, on pourrait dire un humaniste, un honnête homme, c'est-à-dire un homme qui était à la fois philosophe, poète, romancier, métapsychiste, qui est né donc en 1843 en Angleterre et qui est mort en 1901, donc relativement jeune. Et il était fils de pasteur. Et il était donc très, très intéressé très tôt par les questions, bien entendu, de l'âme,
en quelque sorte. Voilà,
en quelque sorte, il n'avait pas peur de parler de l'âme, d'ailleurs, de l'âme. Et au cours de ses études au Trinity College, il a rencontré, comme c'était un lieu absolument extraordinaire, qui foisonnait de gens très intelligents, très ouverts, et c'était aussi une période où les questions sur l'existentialisme, sur la question de la mort se posaient très souvent, et avec tous ces gens, et notamment son professeur qui s'appelait Sid Gouick, ils ont décidé de créer un groupe. Donc au début, c'était un groupe un peu informel, qui était le groupe de Cambridge, en 1873, qui se donnait pour objet d'étudier un petit peu les phénomènes que la conscience, que la science actuelle, que la logique rationnelle n'étaient pas à même d'expliquer en fonction du bagage scientifique que le monde avait à l'époque.
Alors, ce qui est formidable quand on lit ce livre, il est d'une modernité étonnante et alors d'une rigueur. Ce ne sont pas des fantaisistes, hein. Ils ne sont pas là pour tenter de se donner une sorte de justification poétique qui pourrait conduire à croire à une sorte d'éternité après prolongement de la vie au-delà de la mort. Non, 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 ils essaient de repérer tous les éléments qui nous démontreraient que notre psyché est capable en elle-même de générer des phénomènes sortant de l'ordinaire.
Oui, alors effectivement, ce ne sont pas des gens... comment dirais-je, ce ne sont pas des illuminés. Ils étaient peut-être un peu illuminés de travail. Mais ils étaient d'une grande rigueur. Ce sont en général des universitaires. Meyers était philosophe, psychologue. Il était professeur au Trinity College. Sid Gouick l'était également. Donc ce sont des gens qui étaient, la majeure partie d'entre eux étaient des universitaires. Et quelques personnes venant d'un autre milieu, il y avait des hommes politiques, qui étaient à l'origine de la fondation de cette société en 1882, qui s'appelle SPR, Society for Psychical Research, et d'autres personnes ont rejoint le mouvement. Donc c'était aussi une époque, il ne faut pas l'oublier, où plein de travaux de par le monde se faisaient concernant l'hypnose, le somnambulisme. On a eu l'occasion d'en parler ici, soit moi, soit d'autres personnes que vous avez invitées. Donc il y avait en France notamment Janet, qui avait fait des travaux sur l'automatisme psychologique. Et Meyers avait ceci de particulier. Il avait une ouverture absolument extraordinaire qui l'amenait à intégrer tous les travaux dans tous les domaines possibles qui étaient faits dans le monde. Tout ce qui concernait la personnalité humaine, c'était extraordinaire.
Et tout en ayant un esprit critique. Hein.
Tout en ayant un esprit critique.
Il ne voulait pas avaliser pour avaliser.
Il ne voulait pas avaliser pour avaliser et il s'est rendu compte. Il était, donc, dans ma préface que je raconte un petit peu son histoire sentimentale qui serait, disons, d'un point de vue psychologique à l'origine, pas à l'origine, qui aurait renforcé sa quête d'une possible existence de quelque chose de l'âme après la mort, mais il avait de toute façon une rigueur de pensée et un désir d'appliquer les méthodes les plus rigoureuses à tous les témoignages qu'il recevait, de quelque partie du monde qu'il vienne, et notamment de lancer avec
Gurney
et Sidgwick et Podmore, donc d'autres personnes qui les avaient rejoints, de lancer une vaste enquête absolument extraordinaire, comme on se demande comment il est possible de faire un tel travail, pour recenser le maximum de matériel et d'histoire concernant les phénomènes télépathiques, etc. Pourquoi s'était-il posé cette question ? C'est qu'il est effectivement mu à l'origine, de par son histoire fils de clergyman, de par le rejet, comme beaucoup de fils de pasteurs de cette religion, de par son histoire sentimentale, de par ses intérêts, de par la crise existentielle qu'il a dû connaître au milieu de son adolescence. Il était bien entendu intéressé par, encore une fois, cette question de la survie. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait des travaux qui montraient des phénomènes qui émergeaient lors de l'utilisation de l'hypnose, lors de l'utilisation en état somnambulique, lors d'un somnambulisme provoqué ou spontané. Et il s'est dit qu'il y avait quand même une étude à faire, pas à pas, progressivement.
Voilà, et ne pas avaliser la tradition qui détermine que les esprits sont là à nous hanter, à nous manipuler, et que peut-être nous étions nous-mêmes, en quelque sorte, eh bien, les dépositaires de ces dons sortant de l'ordinaire. Et alors, il en est arrivé à cette conclusion, et là, ça mérite tout de suite que vous le développiez de façon claire, pas trop difficile, donc, à savoir qu'il y aurait notre existence terrestre qui serait en quelque sorte doublée d'une existence spirituelle. Nous serions à cheval entre ce monde qui nous rive à la gravitation et puis un monde plus éthéré qui serait celui dans lequel on pourrait puiser, d'ailleurs il le dit je crois de cette manière-là dans le livre, une sorte d'énergie fondamentale qui nous, en quelque sorte, nous porte littéralement. C'est bien cela ?
Oui, c'est cela. On se rend compte à quel point ces propos sont tout à fait contemporains, pourraient être contemporains. Effectivement, tout en collectant ces témoignages, en étudiant donc un nombre incroyable de récits, en les analysant, les disséquant, en les confrontant avec d'autres récits, d'autres travaux, il s'est rendu compte que, effectivement, dans ces états-là, il y avait d'un côté ce qui concernait stricto sensu, si on peut dire stricto sensu, ce qui relevait de la psychopathologie, c'est-à-dire ce qui était relevé de la maladie mentale. Et c'était pas vraiment, il en parle dans les désintégrations de la personnalité, dans l'hystérie, mais c'était pas ça tellement qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était ce qu'il en était du côté positif et du côté d'élévation de l'être humain.
Voilà, et donc on a une sorte d'état qui nous fait, bon, plutôt vivre chichement, enfin, pas véritablement dans toute la potentialité de notre psychisme et de notre capacité à la création, et que des états modifiés de conscience qui se développent aujourd'hui dans des thérapies telles que les vôtres, hein, la respiration holotropique, le rebirth, etc., l'hypnose, et où là, on est capable de générer des phénomènes qui sont tout simplement, comme il le fait dans un de ses chapitres, les phénomènes liés, par exemple, à la création pure, ce qu'il appelle des génies.
Absolument, absolument. Et c'est à partir de là, donc à partir de ses études, qu'il a créé ce concept fondamental qu'il s'appelle le moi subliminal, à côté donc d'un moi supraliminal. Je vais essayer d'aller très vite, très bref. Je ne vais pas faire un cours théorique. Simplement qu'il y a à l'intérieur de nous une partie, un flux de conscience, comme James le disait, mais qui concerne en fait toute une partie de notre personnalité, qui est composée de plusieurs sous-personnalités, qui à un moment peuvent se cohérer dans un mouvement extraordinaire, qui vont donner lieu à un jaillissement, ce qu'il appelait d'ailleurs le jaillissement subliminal, qui est le jaillissement de la création. Et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui des auteurs psychanalystes comme Anzieux, Didier Anzieux, qui ne s'appuyait absolument pas sur Myers, je ne sais même pas s'il a lu Myers, décrive de la sorte le processus de la création.
Alors ce que je vous propose, Joacy Ahmed, on va faire une petite pause et juste après, on va parler de ce phénomène de la création qui montrerait qu'en réalité, bien peut-être que tout à chacun, nous serions à même de devenir des génies. Ce serait simplement une sorte de manque de capacité à entrer dans un état modifié de conscience qui nous pénalise aujourd'hui.